Alors, en ce week-end du 68e anniversaire du massacre d'Oradour-sur-Glane, qui vit le 10 juin 1944, le massacre de 642 personnes par la division Das Reich, nous sommes en compagnie de Daniel Lheureux, passionné d'histoire, qui s'intéresse depuis 1985 à la mémoire de la déportation et de la résistance dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est dans un souci de transmission qu'elle a écrit un certain nombre d'ouvrages sur la résistance. Son prochain livre portera sur l'histoire des réseaux de résistance franco-britanniques pendant la guerre et après la libération. Alors Daniel Lheureux, on l'a dit, vous êtes passionné d'histoire. Comment êtes-vous tombé dans le chaudron ?
Oh, tout à fait accidentellement, en voulant reprendre une formation pour adultes pour passer l'équivalence du baccalauréat. Et la résistance est un sujet qui était relativement tabou quand j'étais dans mes années scolaires. Et donc j'ai fait une grosse découverte sur la région et j'ai décidé d'aller sur le terrain, retrouver les acteurs de ces années glorieuses.
Alors comment travaillez-vous ?
Alors je retrouve, disons que c'est un fil qui se déroule. Le premier petit point de départ a été un pilote de la Royal Air Force le 8 mai 1985 aux cérémonies de la victoire à Lille. Et quand je lui ai expliqué que j'étais passionnée par l'histoire de la résistance, il m'a invitée à assister à l'Assemblée Générale du réseau Sylvestre, le WO, qui se tenait 4 jours plus tard. Donc j'ai commencé à recroiser des personnages très importants, mais très modestes. Et il faudra du temps pour arriver à les faire parler. Et puis, bon, quand une personne acceptait de parler, elle me disait « Mais il faut que vous alliez voir telle autre personne. » Et j'ai sillonné la France dans tous les sens, en fonction de ce qu'on me donnait comme information.
Et donc, finalement, ce n'est qu'une histoire de rencontre.
C'est une histoire de rencontre. Des rencontres très riches qui ont vraiment fait de ma vie quelque chose d'incroyablement important pour la transmission de cette histoire, puisque très peu de gens la connaissaient.
Mais c'est ça qui vous importe, c'est la transmission. Alors, on va revenir à l'histoire. Pendant l'occupation allemande, la région avait un statut particulier.
Oui, la région était en zone interdite, c'est-à-dire rattachée au gouvernement de Bruxelles, au gouvernement allemand de Bruxelles. Mais la population s'est tout de suite mobilisée contre l'occupation allemande, tout simplement parce qu'il y avait le souvenir de la Première Guerre mondiale. Et les jeunes ont été élevés également en écoutant les parents, les grands-parents, qui le soir racontaient ces années-là. Et dès que les Allemands sont arrivés, il y a eu ce rejet et cette haine de l'allemand qui était installée dans les mémoires des jeunes.
Ça, vous en êtes si sûr, parce que est-ce que vous voudriez nous dire que finalement, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y aurait eu un vent d'esprit de résistance qui aurait été peut-être plus fort qu'ailleurs ?
Spontané. Mais surtout spontané et individuel. C'est-à-dire qu'au départ, les gens se sont révoltés chacun de leur côté avant de se regrouper. Et avant de former des petits groupes qui vont être attachés ensuite à des réseaux ou à des mouvements.
Alors justement, quelles sont les caractéristiques de la constitution de ces réseaux de résistance dans le Nord-Pas-de-Calais par rapport à d'autres régions ? Est-ce qu'il y a une spécificité ?
Alors ici, quand on parle de réseaux, il y a bien sûr plusieurs organisations. Celle dont je parle beaucoup parce qu'elle a été vraiment oubliée dans l'histoire de France, ce sont les réseaux franco-britanniques. Et pour la simple raison qu'en août 1943, il y aura déjà 800 Français nordistes dans le réseau WO, qu'on appelle le réseau Sylvestre Farmer après la guerre.
Pourquoi WO ?
Alors WO, c'est un nom qui leur a été donné par les Allemands, qui veut dire War Office, ministère de la guerre. Mm-hmm. En réalité, ils n'ont jamais appartenu au ministère de la guerre, mais ils ont appartenu au SOE, c'est-à-dire un service spécial créé par Winston Churchill, pour amener de l'aide dans les pays d'Europe occupés, pour apporter l'appui non seulement stratégique, mais des hommes, et former les résistants à cette guerre secrète.
Alors vous dites que les réseaux franco-britanniques sont moins connus. Pourquoi ? Puisque finalement la proximité de l'Angleterre a complètement changé la donne en région Nord-Pas-de-Calais.
Alors ça, c'est un sujet politique, c'est-à-dire qu'à la Libération, le général de Gaulle voulait que la résistance ne soit que française, et il a voulu occulter totalement toute la partie des Français qui avaient travaillé avec des Anglais.
Bah voilà un truc étonnant quand même.
Oui, mais vous savez, il y a une image qui est célèbre. C'est celle du 1er octobre 1944. Le général de Gaulle a annoncé qu'il venait à Lille rendre hommage à la résistance. Et les gens du réseau Sylvestre, n'ayant pas d'uniforme, se sont fait un drapeau un grand drapeau bleu, blanc, rouge avec la croix de Lorraine. Et pour se faire reconnaître, en bas, ils ont mis une petite bande blanche avec WO pour que les gens reconnaissent que c'était leur réseau. Et quand le général de Gaulle a déambulé à grandes enjambées le boulevard de la Liberté, il s'est arrêté brusquement à quelques mètres des trois personnes que j'ai interrogées. Et celui qui était au centre, qui était tout petit, Arthur Malfay, m'a dit, je me suis redressée, j'ai dit, il sait ce qu'on a fait, il vient nous féliciter. Et le général a demandé d'enlever la bande blanche avec les lettres WO et la tête du chat.
Et ça a dû lui faire
ce
un
qui
coup.
Sera refusé.
Ah oui, c'est ça, ils n'ont pas...
Ils n'ont pas cédé, parce que s'ils enlevaient ça, leur réseau n'existait plus. Or, ils ont 320 morts.
Ça en dit long quand même sur l'état d'esprit du général de Gaulle à l'époque.
Voilà, disons que l'esprit de la libération a été vite oublié pour faire place à la politique.
Cela dit, même pendant la résistance, la politique n'était jamais partie. Comment s'est créé ce réseau Action Buck dont vous parlez ?
Alors, le réseau Action Buck a pris ce nom tout simplement parce que celui qui va le diriger à partir de Londres s'appelle le colonel Maurice Buckmaster. Et Maurice Buckmaster, c'est une personne qui va être très estimée des résistants français. Il adore la France, c'est sa seconde patrie, et il veut absolument libérer la France parce que ses amis habitent le Pas-de-Calais et qu'avec l'occupation allemande, il est totalement coupé de ses amis. Et il veut absolument libérer ce pays. Parfaitement bilingue. D'ailleurs, c'est une chose qu'il a enseignée à ses enfants, l'amour de la France.
L'amour de la France pour un Anglais, effectivement, c'est pas banal.
Non, alors, c'est pas banal.
Finalement, ce Maurice Buckmaster, on pourrait dessiner plus avant sa personnalité.
Je pourrais pas. Comment vous le dire ? Cet homme va laisser une image énorme dans la région, tout simplement parce que ce n'est pas un militaire de carrière. Il était représentant pour les entreprises Ford et puis les champagnes, les cognacs, voilà, en Angleterre. D'où sa raison pour laquelle il était souvent en France et souvent dans le Pas-de-Calais pour Ford. Et il va vraiment consacrer presque toute sa vie à ce que la mémoire de tous ces Français qui ont travaillé avec lui sans le connaître soit reconnue. D'ailleurs, à la Libération, il va prendre des contacts très importants avec les officiels français pour essayer que les Français ne soient pas comme ça rejetés. Quoi. Vous savez, il y a une anecdote quand même qui est très éloquente là-dessus. C'est que celui qui va prendre la tête du réseau à la mort du capitaine Trotobas, Pierre Céaille, envoie ses dossiers pour les faire valider à Paris, au ministère des Anciens Combattants. Et on lui dit tout le temps que ces dossiers n'arrivent pas. Alors un jour, il va se prendre le culot, il va forcer les portes du ministère à l'heure du repas. Et ils vont fouiller, ils sont deux, ils vont fouiller dans les armoires, ils vont trouver des caisses avec sur les dossiers écrits en rouge à travailler pour une puissance étrangère. Ça vous donne une idée quand même de la portée qu'a eu simplement le fait d'entrer en résistance. Comme il disait, mais au départ, on ne nous disait pas « vous allez travailler avec des Anglais ». Est-ce que vous voulez faire de la résistance ? C'est tout. Et les gens disaient « oui ».
Cela dit, pour faire de la résistance, c'était quand même presque évident de travailler avec des Anglais.
Mais oui, bien sûr. Mais encore fallait-il que les autorités françaises le reconnaissent.
Les autorités françaises à la Libération. Quel rôle il a joué finalement dans le Nord, ce fameux agent Buckmaster ?
Alors, il était le dirigeant des 95 réseaux franco-britanniques en France.
Donc il y en avait 95, ce qui est quand même beaucoup.
95 réseaux sur le sol français.
Et donc pas que dans le Nord-Pas-de-Calais.
Non, mais c'est l'un des plus importants, tout simplement parce qu'il faisait quelque chose qui est assez exceptionnel. Il avait un réseau Action, il avait sa propre filière d'évasion et un service renseignement. Habituellement, les organisations ne faisaient qu'une chose.
Voilà ces fameux dossiers renseignement, voilà.
Voilà.
Oui, d'accord. Et donc vous avez évoqué le nom de Michael Trotobas, qui est donc le capitaine Michel. Alors qui était ce capitaine ?
Alors le capitaine Michel, lui, a vraiment un très lourd passif avec les Allemands. C'est que quand il vient au monde, il naît à Brighton au mois de mai 1914. Et son père est un jeune Français qui est en train d'effectuer son service militaire en France. Sa mère est irlandaise. Et le petit garçon va grandir avec uniquement cette réponse quand il demande où est son père. Son père est prisonnier des Allemands. Il a été blessé pendant la Première Guerre mondiale. Il a été emmené en Allemagne. Et le petit garçon ne verra son père quand il sera libéré, c'est-à-dire quand il aura 5 ans et demi. Et il, petit, sa tante disait, il promenait avec un manche à balai sur l'épaule en disant « Quand je serai grand, je tuerai les Allemands pour avoir pris mon papa ». Sans savoir qu'arriverait la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle il va s'investir totalement jusqu'à sa mort.
Oui, effectivement. Qui se cache sous le nom de Violette ?
Alors Violette, c'est Simone Seaille. Simone Seaille est le premier agent de liaison qui sera recruté à Paris. Parce que faut quand même dire que le capitaine Michel est arrivé en septembre 1941... arrêté avec les autres officiers du SOE, ils sont enfermés au camp de Mozac. Et là, c'est lui qui va diriger et préparer l'évasion de tout le groupe qui est enfermé dans un baraquement. Et dès qu'il rentre en Angleterre, il va avoir qu'une idée, c'est de revenir continuer le combat pour libérer la patrie de son père. Et il ira directement chez la famille Seaille, tout simplement parce qu'au camp de Mozac, il a fait la connaissance d'un jeune officier français qui s'est fait arrêter alors qu'il tentait de passer en Angleterre, Pierre Seaille, qui deviendra son adjoint et le futur chef du réseau.
Donc finalement, une femme qui est le premier agent de liaison du capitaine Michel entre Paris et Lille.
Mais elle a offert son service spontanément.
Ah oui, non, mais je ne discute bien pas. Alors le réseau Sylvestre Farmer, c'est quand même un peu nébuleux pour moi.
Alors, pourquoi Sylvestre Farmer ?
Et puis, qu'est-ce que c'était ce réseau Sylvestre Farmer ?
Alors, tout simplement, les noms des réseaux franco-britanniques sont composés d'une partie en anglais et une partie en français, pour bien prouver que les Français et les Anglais travaillent ensemble. Souvent, la première partie, c'était un nom de métier, et la deuxième, c'était un choix, et le capitaine Michel avait une passion pour les chats, d'où le nom de Sylvestre pour la partie française.
Le rapport entre les chats et Sylvestre, j'ai un peu de mal à...
Mais c'était souvent le nom qu'on leur donnait en France.
Ah bon, d'accord.
Voilà. Et lui, par contre, avait appelé son chat, il avait un superbe chat noir, du nom des explosifs anglais 808.
Ah oui, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait le chat sur le drapeau du réseau.
Alors, le chat, c'est parce que c'est le seul rescapé du massacre quand le capitaine Michel va être abattu par les Allemands. Il va être récupéré par les gens du réseau et il va devenir l'emblème du réseau. Mmh. On va le retrouver sur les drapeaux, sur les papiers, sur les tampons, partout. Et il est sur le monument qui est au cimetière de l'île Sud et qui a été offert par la population.
Mmh. Alors pendant ce temps, Vichy crée les groupes mobiles de réserve. C'était important finalement pour eux.
Alors dans le Nord, ils ont une particularité. C'est qu'on va retrouver dans ces groupes mobiles de réserve des jeunes qui veulent éviter de partir travailler en Allemagne. Quand ils passent leur visite, il y a toujours des gens du réseau qui sont là et qui leur disent « Si vous entrez dans les services de police, vous ne partirez plus en Allemagne. Les Allemands considèrent que vous travaillez pour eux. » Et donc ces jeunes qui n'ont absolument pas la vocation de policiers, mais ils n'ont qu'une idée, c'est que la guerre se termine vite pour reprendre ce qu'ils voulaient être leur métier. Il y a des étudiants en médecine, des mécaniciens, on va y trouver un peu de tout.
Alors à Lille en 1943, il y a une filière d'évasion vers l'Espagne.
Oui, alors cette filière a été constituée assez rapidement, tout simplement parce que c'est un contact que le capitaine Michel a eu également au camp de Mozac. Il y avait un garagiste à Ville qui avait été arrêté alors qu'il passait toutes les frontières et les zones de démarcation sans papier. Il a été dénoncé. Et quand il raconte ce qu'il faisait, le capitaine Michel lui dit « Je vais avoir besoin de vous dès que je sors de ce camp ». Et il va aller le contacter dès décembre 1942. Cet homme a fait son année de prison et est libéré. Il était à Ville. Et immédiatement, il va mettre en route cette filière. Un système très simple. Ils étaient très astucieux. Ils n'avaient pas de gros matériel, mais alors les astuces, ils en avaient à revendre. Alors il va recruter des gens dans les gares où vont passer les trains. Et par exemple, il avait mis son épouse du côté de Biarritz, et puis parfois également du côté de Bordeaux. Elle avait un bébé, et selon qu'elle avait le bébé dans les bras ou dans le landau, ça indiquait si la route était libre ou pas. Sur Paris, il avait un correspondant qui avait un béret. Selon qu'il portait le béret ou qu'il l'avait à la main, ça indiquait si la route était libre ou pas. Donc vous voyez, on ne se parle pas, on ne se regarde pas, juste un clin d'œil comme ça en passant, voilà.
Il fallait être inventif. Alors le réseau de résistance dans le Nord-Pas-de-Calais est passé maître dans l'art de faire des faux papiers.
Oui, parce que Pierre Seaille, il faut dire qu'il a débuté très tôt, il s'ennuyait énormément en classe, donc il faisait école buissonnière. Et les parents ne découvriront qu'au baccalauréat que tous les bulletins qu'ils ont reçus de leur fils, ce sont des faux. Et tout simplement parce que quand il a dit qu'il avait le baccalauréat et que les parents n'ont pas vu son nom sur la liste, ils sont allés réclamer. Et on lui a dit « Mais votre fils, il y a bien longtemps qu'on ne le voit plus en cours. » En réalité, il passait son temps à jouer aux échecs dans les cafés parisiens. Mais ensuite, quand il a été à l'armée, il a fait les fausses permissions pour ses amis.
Et il a continué.
Et il a continué. Quand il est sorti du camp de Mozak, il s'est fait un faux bulletin de sortie en imitant parfaitement le vrai bulletin de sortie. Et à partir de là, en mettant comme nom le prison, parce qu'il sortait de prison, il a pu se faire faire des faux papiers officiels à la mairie de Périgueux.
Alors, dans les actions menées par le capitaine Michel, il y a pas mal de sabotage, notamment du côté de Fives-Lille.
Alors ça, c'était le premier gros sabotage qui a marqué vraiment les esprits dans la région et la résistance. Toujours par ruse, hein, le capitaine Michel a appris à ses hommes à ne jamais agir en violence. Tout simplement, il leur disait qu'une vie, quelle qu'elle soit, même celle d'un ennemi, a plus de valeur qu'un sabotage réussi. Si on risquait la vie d'une personne, on devait remettre le sabotage à plus tard. Parce qu'un sabotage, on peut le refaire, mais rendre une vie, on ne peut pas. Vous voyez, donc il a vraiment inculqué tous ses principes à ses hommes qui vont les respecter constamment. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Il a habillé des hommes en faux policiers, certains en colonels allemands. Chacun a une petite partie de ce qu'il doit faire dans l'usine. Et l'ingénieur Jean Chieux a sorti le plan des usines de Fives avec des renseignements très importants sur les lieux précis à saboter. Et donc, le capitaine donne rendez-vous le 26 juin à 19h30 rue de l'usine à Lille. C'est un samedi soir. Petit à petit, les hommes arrivent. Ils ne savent pas comment ils vont rentrer dans l'usine. Et d'un seul coup, j'ai eu la chance d'avoir des témoins qui ont participé là et qui m'ont raconté. On a vu, dit le capitaine, sonner à la porte du concierge. Et Arthur Malfay m'a dit, mais on va tous se faire prendre. Et là, le capitaine dit, on vient d'apprendre à la commandanture que des terroristes ont été parachutés dans l'usine, elle est immense cette usine, il faut vite les arrêter avant qu'ils ne fassent des destructions. Et là, il dit, on s'est tous regardés en souriant, parce que vraiment, c'était très ingénieux comme système. Alors, ils vont parlementer, ils vont s'introduire dans l'usine, mais dès qu'ils sont dans l'usine, chacun sait dans quelle direction il doit se diriger. Donc chacun s'éparpille, ils vont mettre leurs explosifs un peu partout, ils vont mettre en sécurité les quelques ouvriers qui sont là dans la loge du concierge en disant « quand les Allemands vont arriver, ils vont vous interroger, vous ne bougez pas d'ici ». Ça les met aussi en sécurité parce que bien sûr ça va sauter un peu partout. Et quand tout est fait, le capitaine dit « vite, vite, sortons d'ici ». Et ils sont à peine arrivés sur le pont du Monterre que les voitures allemandes arrivent à toute alerte mise en route. C'est vraiment la pagaille.
Mais finalement, c'était quand même très dangereux pour les ouvriers qui ont été enfermés dans le bureau, parce que les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Parce que les ouvriers ont dit, bon, on nous a emmenés ici, ce sont des Allemands qui nous ont emmenés ici, puisque je vous dis, il en avait déguisé en allemand, dont un faux colonel allemand qui l'interrogeait, et le faux colonel disait, oui, il faut vite rester là, et on veut savoir si vous avez vu des choses, on va vous interroger.
Donc les Allemands se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait avoir, évidemment. Donc c'était à l'usine de Fives-Cal, ça. Hein.
Voilà.
Ok. Alors, que voulait dire le message diffusé sur la BBC le 5 juin 1944, Germaine Pirouette.
Alors, contrairement à ce qu'on pense beaucoup, c'est qu'il n'y a pas eu qu'un seul message pour annoncer le débarquement. Chaque organisation de résistance avait son propre message. Et en fonction du message, on devait déclencher les opérations pour aider au débarquement. C'est-à-dire qu'ici dans le Nord, dès que les chefs de région, parce que le réseau a été divisé en régions à partir de janvier 1944, dès que les chefs de région entendent le message Germaine Pirouette, ils donnent l'alerte et tous leurs hommes partent sur le terrain. Ils vont couper tous les poteaux téléphoniques, ils vont saboter toutes les lignes de liaison, ils vont enlever les poteaux indicateurs de route, mettre des faux poteaux qu'ils ont préparé d'avance. Ils vont semer des clous, mais par milliers, sur les routes, des clous tripodes, ce qui était utilisé par les contrebandiers chez nous pour éviter d'être pris par la police quand ils étaient poursuivis. Et les Allemands se disent que si ça bouge autant dans le Nord, c'est que le débarquement, le vrai, aura lieu dans le Pas-de-Calais, et ce qui fait que les meilleures divisions d'Hitler resteront dans le Pas-de-Calais et n'iront pas se battre en Normandie, ce qui était très important.
Et ça a marché.
Et ça a marché.
Que font aujourd'hui les Français et les Britanniques pour entretenir la mémoire de ce réseau?
Alors, à la Libération, quand ils ont vu tous les problèmes qu'ils avaient, le colonel Buckmaster et Pierre Seay ont décidé de créer une association, une amicale franco-britannique. Cette amicale a pris le nom de Fédération de Libre Résistance. Et jusqu'à la mort du capitaine, tous les ans, le premier mardi de décembre, de tous les coins de France descendaient les responsables et les membres des réseaux. Et ils venaient uniquement passer quelques heures avec le colonel Buckmaster. Et ensuite, chacun retournait chez soi pour une heure. Et puis ensuite, eh bien, ils ont décidé de faire quelque chose qui va prendre du temps, puisqu'il faudra 50 ans pour obtenir l'autorisation de créer un mémorial national qui se trouve à Valençay. Il a été inauguré par la reine-mère le 6 mai 1991. Et ce monument, c'est une œuvre d'une Britannique qui représente une pleine lune avec une partie gris clair, ce sont les combattants de l'ombre, et une partie très foncée, se font dans la nuit pour aller au parachutage. Et ils portent le nom des 104 morts du SOE qui sont venus aider les résistants français, dont le nom du capitaine Trotobas.
C'est fort dommage que ce monument ne soit pas dans le Nord-Pas-de-Calais. Daniel Lheureux, merci. Donc je rappelle que vous avez écrit pas mal d'ouvrages sur le sujet. Alors peut-être on cite le dernier. Après la tourmente, le retour à la vie aux éditions Nord Avril.
Voilà. Et puis... Donc il est constitué de photos qui sont datées du 1er juin 1944 et qui m'ont été léguées par le chef militaire du réseau Sylvestre. C'était un cheminot et c'est passionné par son métier. Il m'a offert un jour les photos en disant « Je sais que tu sauras les mettre en valeur un jour et que mes documents ne seront pas perdus ». Voilà ce que j'ai fait l'année dernière.